Alors, pour commencer le sermon aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Qu'attendez-vous? Qu'attendons-nous? Est-ce que nous attendons quelque chose de bien? Est-ce que nous attendons quelque chose de mauvais? Des fois, on est peut-être un peu pessimiste et même si les choses vont très bien, on peut penser il risque d'avoir quelque chose qui se passe pas. Donc, on peut avoir cette inquiétude. Est-ce que nous attendons quelque chose nouvelle? Quelque chose qui n'est jamais arrivé dans notre vie, par exemple. Je sais que des fois, il faut attendre longtemps pour quelque chose qui se passe, quelque chose de nouvelle. Est-ce que nous aimons attendre des choses imprévues? Est-ce que nous aimons les choses des surprises, des bonnes surprises? Il y a quand même des mauvaises surprises. Est-ce que nous attendons que quelque chose arrive à sa fin? Ou est-ce que nous attendons à quelque chose qui commence? Ce sont de bonnes questions, n'est-ce pas? Si je vous demande à quoi attendez-vous? Si je vous demande qu'est-ce que nous attendons, il y aura peut-être plusieurs réponses différentes pour chacun d'entre nous. Comme je vous ai mentionné, mes enfants attendaient cette semaine l'arrivée de la fête des trompettes. Et ils ont même commencé à compter, à demander, est-ce que c'est après-demain? Est-ce que c'est dans 4 jours? Et donc, ils ont commencé vraiment à se mettre au début de la fête des trompettes. Une autre question, peut-être plus importante que la première question, c'est est-ce que nous sommes prêts pour les choses que nous attendons? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes préparés? Et même on peut mettre ça dans le présent, est-ce que nous préparons pour les choses attendues? Que ça soit quelque chose de bien, que ça soit quelque chose de mauvais, que ça soit quelque chose d'imprévu ou même quelque chose de nouveau ou nouvelle. Est-ce que nous sommes prêts que ces choses arrivent? Parce que même moi personnellement, quand je pose cette question, je peux penser à plusieurs moments dans ma vie où j'attendais peut-être quelque chose et le jour est arrivé ou le moment est arrivé et j'étais pas prêt. Quand j'étais un jeune adolescent, j'avais la possibilité un été avant de terminer l'école secondaire aux États-Unis, la high school, j'ai eu dans l'été la possibilité de travailler avec des ingénieurs parce que moi je voulais être ingénieur. Donc j'ai travaillé dans un site du département de la défense et j'étais entouré d'ingénieurs qui préparaient un projet qui faisait quelque chose avec les armes. Donc on démontait des armes avec les gaz VX, on démontait le gaz à moutarde, les armes. Donc on construisait une usine pour démanteler ces choses. Et les ingénieurs, ils avaient tous une vaste expérience dans ce domaine. Et c'est eux qui surveillaient sur le projet de construction. Et le jour où moi je suis arrivé comme stagiaire, on m'a présenté dans une réunion autour de la table exécutive comme à côté. Et on a dit, alors Daniel, moi j'attendais ce jour quoi, et on a dit, Daniel, présente-toi. Et j'avais pas le souffle. Devant ces gens-là, j'avais aucun souffle. J'arrivais pas à respirer parce que j'étais tellement intimidé par leur présence, par leur expérience, par le fait d'être stagiaire. Le jour est arrivé, j'avais pas le souffle pour parler, pour dire moi c'est Daniel. Je ne pouvais même pas dire parce que j'avais frisé comme ça. Donc, j'ai pris un petit temps et tout le monde a regardé un petit peu et j'imagine que c'était pas lent, mais pour moi, c'était comme éternité, le moment qui est passé, parce que moi, je voulais m'exprimer. Donc, j'étais pas prêt pour ce moment. Et il y avait en même temps quelque chose d'inattendu qui est arrivé. Mais quand nous sommes en train de vraiment préparer pour quelque chose que nous prévoyons, ça c'est une bonne chose, de se préparer. Parce que le jour est arrivé, il faut qu'on soit prêt. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas juste la fête des trompettes, mais ce qui signifie la fête des trompettes. C'est ça que nous attendons tous, n'est-ce pas? Est-ce que c'est trop tôt pour nous, en ce moment-là, de commencer nos préparations pour le retour de Jésus-Christ ici-bas, pour le retour de deuxième avènement, pour le retour, pour l'arrivée du roi des rois? Est-ce que, avec le contexte d'aujourd'hui, avec l'environnement qui nous entoure, est-ce que c'est trop tôt pour commencer la préparation pour l'arrivée, pour le retour de Jésus-Christ? Et est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Je ne sais pas si c'est par hasard, mais vous connaissez comme moi ce que Christ a dit. Il a dit que ça sera comme un voleur dans la nuit, dans un sens, n'est-ce pas? On va y revenir plus tard dans le sermon, mais il a dit qu'il faut qu'on reste prêt, mais en même temps, le jour n'est pas clair, le jour n'est pas dit. C'est juste le Père qui est au courant de ces choses. Mais il faut qu'on se prépare quand même. Il a dit ça à ses disciples il y a 2000 ans. Mais il a dit que ça sera comme un voleur dans la nuit. Vous savez ce qui s'est passé à nous hier soir? On n'a pas été cambriolés. Mais je pense que c'était des jeunes. Ils ont pris un panneau de construction. Ils l'ont mis dans notre cour en avant de la maison, juste sur notre escalier, les gros panneaux orange comme ça, en diamant. Ils l'ont placé là et ils ont pris la plante de Madame Harper qu'elle avait achetée et ils l'ont détruit complètement. Donc, quelqu'un est arrivé chez nous hier soir, pendant la nuit, et ils ont fait ça sans que nous le sachions. Moi, j'étais pas prêt. Moi, je dormais. Mais c'était pour moi un rappel de ce que j'allais vous dire aujourd'hui, ce que j'allais dire aujourd'hui, c'est que ces choses, on ne peut pas vraiment les anticiper tous, mais à nous d'être prêts, d'être préparés, à nous de rester vigilants même. C'est ça, c'est ce que Jésus-Christ voudrait de nous. C'est une vigilance, pas seulement sur les choses qui se passent dans le monde, mais une vigilance sur les choses qui se passent ici, en nous aussi. C'est ça la vigilance aussi. Il faut qu'on soit prêt, nous, ici, parce que ici, c'est une œuvre que Dieu est en train d'accomplir en nous. À nous d'être prêts, de permettre à Dieu de nous préparer en laissant la parole de Dieu entrer dans notre cœur et accomplir un changement qui produira cette préparation, la préparation nécessaire des saints de l'Éternel. Considérons 2 Timothée. Nous avons l'apôtre Paul qui est écrit à ce jeune ministre Timothée, mais je pense que ce passage est très applicable à chacun d'entre nous. On voit en même temps, on voit la perspective de quelqu'un qui, nous avons discuté récemment, le grand changement de l'apôtre Paul dans sa vie. Il luttait contre les efforts de l'Église, et puis, à peu près le lendemain, c'est comme s'il tournait à 180 degrés, et il commençait à lutter pour l'Église. Et il souffrait les mêmes choses qu'il a données à d'autres personnes, à d'autres qui étaient dans l'Église du Nouveau Testament. Maintenant, nous avons cet homme qui avait du vécu, qui avait beaucoup travaillé pour l'Église, qui avait beaucoup voyagé, qui voulait passer, si vous voulez, le bâton, passer le bâton à ce jeune ministre. Et c'est son expérience, c'est son vécu que nous lisons ici dans 2 Timothée 4 et le verset 6. Commençons au verset 6. Nous avons la perspective de Paul et en même temps, nous avons également une sorte d'admonition, on peut dire, une exhortation pour Timothée. Qu'est-ce que Paul nous dit dans ce passage? Parce que ce n'est pas juste pour Timothée, c'est applicable à chacun d'entre nous. Donc, 2 Timothée 4, commençons avec le verset 6. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Ici, nous avons trois choses qui sont comme, par exemple, une œuvre accomplie dans un sens, mais pour moi, ce sont des choses qui Paul considérait comme préparation pour le jour que nous attendons, le retour de Jésus-Christ. Combattre le bon combat, achever la course, garder la foi. Nous avons ces choses déjà comme des exemples de ce que nous devrions être en train de faire pour se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Pour le jour ultime, le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Nous lisons à plusieurs reprises du jour du Seigneur dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Notre attente, notre anticipation de ce jour n'est pas censée de se passer en faisant ce qui nous plaît à nous, de faire chacun ce qui semblait correct dans ses propres yeux, comme la période des juges, par exemple. Ce n'est pas comme ça que nous sommes censés de préparer pour le retour de Christ. C'est un combat. C'est une course. C'est un effort sincère à garder la foi, à ne pas vivre dans le doute. Aujourd'hui, le monde voudrait qu'on soit dans le doute, n'est-ce pas? Le monde voudrait qu'on considère comme juste une histoire, juste du passé, quelque chose qui n'est pas applicable à nous. C'est ça la volonté de ce monde, c'est de nous convaincre, de nous vendre l'idée que notre foi est inutile. C'est un peu ça, ce que le monde voudrait convaincre à tout bas âge d'un tout petit jeune enfant. On va essayer de dire maintenant que la Bible, c'est juste des fables, c'est juste de la littérature. Donc, on va commencer avec ça. Et toute la vie, le jeune, nous tous qui sommes adultes, nous avons déjà passé par là. Et on va essayer de nous dire, vous devriez douter les choses dans la Bible. Mais c'est un combat, c'est une course. Il faut garder, tenir ferme la foi. Donc, verset 8, « Désormais ». Donc, Paul, encore une fois, il garde cette perspective du futur, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, Paul se préparait pour ce jour-là. Il avait une perspective envers l'avenir. Et pas seulement pour lui-même, mais pour tout le monde, pour tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est d'après ce que nous lisons dans Apocalypse, il y a quand même ceux qui vont se battre contre Jésus-Christ et les saints lors de son retour. Il y a une rébellion pour garder, pour défendre la voix de l'homme. Et cette rébellion ne veut pas se terminer. Il y a une puissance derrière cette rébellion. C'est quand même les esprits malins, c'est Satan, le diable, derrière ses pensées. Et même dans l'homme, il y a une sorte de rébellion, une sorte de doute, un questionnement qui se met contre la voix de Dieu. Donc, déjà, Paul nous oriente en expliquant à ce jeune ministre son perspective à lui. Il explique qu'il attend, il se prépare, il attend quelque chose. Il attend la fin de cette ère, même peut-être pour lui, il attendait la fin de sa vie. Donc, il attendait que quelque chose arrive à sa fin, mais en même temps, il attendait que quelque chose arrive qui n'est jamais arrivé. C'est le retour de Jésus-Christ. Et en même temps, il attendait cette couronne de justice que Dieu avait déjà réservée pour lui. C'est encourageant de considérer cette perspective que Paul, il attendait ce deuxième avènement. Considérant chapitre 14. On arrive à voir que Paul n'inventait rien, ce sont des choses qui avaient déjà été prophétisées en Zacharie 14, et ce sont les mêmes choses que nous attendons aujourd'hui. L'événement, le grand jour, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Zacharie 14, verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient? La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Nous attendons, frères et sœurs, ce jour. Est-ce que nous nous préparons pour ce jour? Est-ce que nous mettons nos efforts? Est-ce que c'est la chose que nous attendons le plus? Est-ce que nous attendons cette couronne de la justice? Cette couronne qui implique aussi une certaine autorité pour ceux qui le reçoivent. L'autorité sous le règne de Jésus-Christ. L'autorité que Dieu prévoit pour nous. Est-ce que nous sommes prêts pour recevoir cette couronne de justice? Alors, Apocalypse chapitre 2, en gardant cette perspective, Apocalypse chapitre 2, nous avons ici un apocalypse, quelque chose de révélé, une révélation de quelque chose à venir, de quelque chose que nous pouvons anticiper, qui devrait nous inspirer ces choses, à se préparer. Dieu ne nous révèle pas ces choses pour rien. Il ne nous révèle pas ces choses juste pour qu'on sache certaines faits ou certaines faits divers. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour que ça soit pour nous un sujet de préparation, un sujet d'inspiration pour le jour à venir. Apocalypse 2, et à partir du verset 10. Nous avons ici un écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Et c'est écrit au verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Donc encore une fois, nous avons mentionné ici cette couronne de vie, qui est le résultat de la fin de la course, de l'arrivée de ce jour-là, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. La couronne de vie, c'est quelque chose, c'est pas juste une autorité, mais la vie est impliquée aussi. C'est la même couronne que la couronne de justice. Il faut la justice et avec, c'est aussi la vie éternelle. La vie éternelle. Verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra. Nous avons des oreilles pour entendre, pour se préparer. Nous avons des avertissements de différents types de perspectives, d'attitudes, de problèmes. Nous avons le vécu de Paul et d'autres qui ont vécu une vie exemplaire. Nous avons cette nuée, si vous voulez, de témoins à considérer, à nous encourager avec l'exemple qu'ils ont démontré dans leur vie. Maintenant, 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous avons besoin, dans ce contexte d'attente, dans cette période difficile que nous venons de lire dans Apocalypse 2 quand même, c'est des choses qui sont censées d'arriver. Ce sont des choses qui ont déjà passé aussi, qui sont déjà arrivées depuis des siècles à ceux qui étaient associés avec l'Église. Il y en a qui ont été mis à la mort. Il y a tout un livre de martyrs par Justin Martyr. Et il y a bien d'exemples de personnes qui ont souffert, beaucoup souffert pour le fait qu'ils étaient associés avec Jésus-Christ, pour qu'ils soient ceux qui vivaient, soit ceux qui juste déclaraient le nom de Christ. Et maintenant, nous avons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, une sorte d'encouragement ici pour ceux qui attendent, pour ceux qui doivent passer par là, qui sont censés d'observer ces choses, de vivre ces moments difficiles, mais de ne pas les vivre en étant découragés, mais de les vivre en étant préparés, de vivre avec un but, avec un objectif, de vaincre ces choses. On est averti. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Est-ce que nous anticipons ce jour? Il y a quand même pas mal de saints, de vrais chrétiens, de vrais membres de l'Église de Dieu qui sont passés devant nous. Est-ce que nous attendons, est-ce que nous anticipons avec la fête des tempêtes? Est-ce que nous anticipons ce jour de délivrance, ce jour de changement, de basculement pour le monde entier? Soyons rassurés par ces mots. C'est même écrit ici, verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Est-ce que nous sommes consolés dans cette période d'attente, ou est-ce que nous sommes plus ou moins intempérés, inquiets, angoisseux? Est-ce que nous sommes pleins d'angoisse? Je ne pense pas que nous sommes prévenus pour que nous soyons dans une période d'angoisse. Si nous sommes prévenus, si nous sommes avertis, si nous avons des oreilles pour entendre, c'est pour nous encourager, pour que les choses ne nous surprennent pas, nous étonnent pas non plus. Maintenant, Hébreux chapitre 9. Et le verset 28. Hébreux chapitre 9 et le verset 28. On peut commencer au verset 27, excusez-moi. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, encore une fois, nous sommes ici, verset 28, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc nous avons un but dans notre attente. C'est quelque chose d'encourageant. Le salut est réservé. La couronne de justice, la couronne de vie est réservée pour ceux qui attendent dans cet état de préparation. Ce n'est pas pour rien que nous attendons. Et c'est intéressant aussi que nous avons souligné ici l'idée qu'il viendra une seconde fois. Pas une seule fois pour toutes, mais il s'est offert une seule fois, lorsqu'il est venu la première fois, pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Voilà, nous avons accès maintenant à ce pardon, au lavement de nos péchés par le sang versé de Jésus-Christ. Et puis, la deuxième fois, nous attendons une deuxième arrivée, un deuxième avènement, pour une raison différente. Pas pour qu'il soit de nouveau offert pour porter les péchés. Ça, c'est fait. Ça, c'est déjà accompli. Et pour la deuxième fois, ce point de basculement, nous attendons pour ceux qui attendent leur salut. Vraiment la délivrance de ce corps physique pour enlever la partie charnelle et vivre en incorruptibilité, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, par exemple. On va se revêtir d'incorruptibilité. Est-ce que notre attente nous encourage? Est-ce que le salut promis par Dieu nous encourage dans les ombres, si vous voulez, dans les ténèbres de ce monde aujourd'hui? Nous sommes là parce que Dieu nous a appelés, il a ouvert nos yeux pour comprendre, mais cherchons à méditer ce qu'il promet à nous aussi, ce qu'il réserve pour nous, ce qu'il prépare pour nous, et sachant aussi qu'il nous prépare pour quelque chose, pour recevoir tout cet héritage. Donc, est-ce que nous le cherchons? Est-ce que notre vie est une vie qui recherche la délivrance, le salut? Considérons les propos de Jacques, chapitre 5. Jacques nous encourage, de notre point de vue, d'être comme un fermier. Est-ce que vous connaissez des fermiers? Est-ce que vous avez déjà connu quelqu'un qui attendait ses récoltes, qui plantait chaque année, qui faisait ça tout le temps, qui vivait avec la terre, qui avait les mains gonflées en tout le temps, parce que tout le temps il était en train de travailler avec des machines, avec des métaux lourds, des choses qui peut-être faisaient des dommage à son propre corps. Est-ce que vous avez connu ce type de fermier? Moi, j'ai un oncle qui a été fermier. On dit un oncle, mais il est un peu plus loin qu'un oncle direct. Mais moi, j'ai été élevé dans un voisinage juste à côté de ses terres. Moi, je voyais mon oncle souvent descendre prendre son tracteur et préparer pour ses vaches. Il avait beaucoup de vaches. Il ne plantait pas grand chose, mais il travaillait dur. Et c'était comme un homme, je dirais, qui avait peu de mots, très peu de mots. Mais quand il disait quelque chose, ça, c'était pour pour dire ça compte. On l'écoutait parce que derrière ses yeux, il y avait beaucoup de vécu, beaucoup de travail comme fermier. Et quand je pense à ce que Jacques nous explique ici, je pense à lui. Soyez, verset 7, Jacques 5 et verset 7, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Donc, le laboureur, le fermier, attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, ce que nous attendons, dans notre propre perspective, ça ne devrait pas être quelque chose qui n'arrivera jamais. La Bible nous dit à plusieurs reprises d'attendre le jour du Seigneur comme si ça va arriver demain, si c'était possible que demain, même si nous connaissons les prophéties, même si nous connaissons que certains événements devront se passer pendant un certain temps, l'attente ne changerait pas. Notre façon de se préparer ne devrait pas changer. Comme un fermier, nous attendons, un fermier patient. Le fermier sait qu'il est sujet ou soumis, si vous voulez, aux pluies, à la nature, aux températures. Il sait que s'il a planté, c'est son investissement qui est là, et s'il y a une sécheresse, c'est une perte. Dans la plupart des temps, il n'y a pas la possibilité vraiment d'intervenir quand il y a les pluies qui attendent trop longtemps, ou même si les pluies viennent trop tôt, le fermier, des fois, il peut perdre beaucoup de son investissement dans sa plantation. Mais il est soumis à la nature comme ça. Il est soumis à ces choses. Donc, est-ce qu'avec de l'année en année, est-ce que ça produit en quelqu'un qui sait qu'il est soumis à ces choses, est-ce que ça produit une sorte de calme, une sorte d'attitude, de patience? Je pense que c'est ça que Jacques est en train de nous expliquer, c'est que quelqu'un qui est capable de passer par là et de continuer à labourer, quelqu'un qui est capable de continuer malgré ces choses, développe une certaine patience. Je sais que mon beau-père avait quand même, quand il était jeune, et il en parle souvent, il avait été élevé dans une petite fermette, et eux, ils étaient obligés de labourer chaque année. Et une chose qu'il a dit, c'est que ça a produit quelque chose en lui, c'est qu'il ne voulait jamais être fermier. Parce qu'il avait vécu et il a vu jusqu'à quoi ça représente le travail de planter, de récolter. Et pour lui, c'était pas une option qu'il reste fermier. Il voulait bien faire autre chose. Et c'est comme ça son perspective. Mais en même temps, il nous a souvent dit, il le dit toujours, qu'il a beaucoup, beaucoup appris. En passant par là, en faisant le labeur des champs, en faisant ces choses. Donc, la vie de la ferme l'a quand même appris beaucoup de choses intéressantes. Donc, Dieu nous donne, chacun d'entre nous, on ne vit pas la même vie, mais la vie que nous menons, on passe par des étapes qui, de temps en temps, se rejoignent et nous sommes capables d'apprendre des leçons avec chaque étape, avec chaque chapitre, si vous voulez, de la vie. Ça représente aussi une sorte de préparation que Dieu est en train de faire. Mais il est intéressant que Jacques continue. Il nous dit d'attendre patiemment, mais il dit aussi, au verset 9, un autre conseil. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc, il encourage les frères de rester un, de ne pas se plaindre les uns contre les autres. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job, nous le savons tous, Job a beaucoup souffert, mais à la fin de l'histoire, Job a été récompensé dans un sens. Il a reçu 7 fois plus qu'il avait perdu dans un sens. C'est ça, la patience de Job. Il ne comprenait pas les prochaines étapes, Job. Il voyait juste, il vivait, il était dans ses souffrances. Mais nous, nous sommes prévenus que même si nous passons par ces souffrances, nous attendons quelque chose de meilleur. Nous attendons la gloire de Christ à son retour. Considérons Matthieu 24. Matthieu 24. Nous nous préparons pour ce jour, pour les événements qui précèdent ce jour aussi. Nous sommes en train de nous préparer. C'est Dieu qui nous prépare aussi, mais nous devons nous soumettre à lui. Donc, Matthieu 24, bien sûr, c'est quand même un discours sur le mont des Oliviers, la prophétie du mont des Oliviers. Et dans ce chapitre, nous avons plusieurs explications de choses qui doivent se passer avant le retour de Christ. Mais dans la connaissance de tout ça, nous sommes censés de rester patients et de continuer à lutter le bon combat, à courir la course et à garder la foi, tout comme Paul nous a expliqué. Même si nous sommes prévenus, c'est pour qu'on continue à faire ce qui est bien, ce qui est bon. Donc ici dans Matthieu 24, le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Donc, ceci va révéler la perspective de ses disciples. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est quoi le contexte de cette question? C'est que Jésus, dans les versets précédents, dans le chapitre précédent, si vous voulez, il vient de dire devant ses disciples, en contemplant le temple, que ici, il ne restera pas pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Donc, le temple avait reçu des rénovations, des nouvelles constructions. C'était tout brillant, le temple d'Hérode. Jésus a mentionné que d'ici un peu de temps, il ne restera pas pierre sur pierre. Et puis, ce commentaire a provoqué une question auprès des disciples. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est comme, encore une fois, ça me fait penser à mes enfants. Quand cela arrivera-t-il, la fête des trompettes? Ils ont déjà, depuis plusieurs jours, une anticipation de l'arrivée de ce jour. Est-ce que nous aussi, est-ce que nous avons une anticipation de l'arrivée de ces choses? C'est ça qui a provoqué la question. Et Christ a donné une belle réponse. Il a donné toute cette prophétie comme réponse à cette question. On connaît déjà un petit peu Matthieu 24, donc il parle au départ, il a choisi quand même à faire un avertissement contre les faux prophètes, malgré les autres choses qui doivent se passer. Jésus a répondu en premièrement, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, il nous est mis en garde contre sa séduction, les faux prophètes. Et puis après, un peu plus loin, on va sauter quand même quelques versets pour se retrouver au verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc c'est ça que nous anticipons, n'est-ce pas? L'avènement, c'est ça que les disciples avaient demandé. C'est quand Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Et voilà les réponses vraiment, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est comme un signe, une chose brillante que tout le monde aura la possibilité de voir. Et puis un peu plus loin, au verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Donc, il y aura tous les signes, tous les miracles qui sont prévus, qui sont prophétisés aussi, décrits dans l'Apocalypse. Les choses qui se passent avant le retour de Christ. Et après, nous avons verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. » Eux, ils se préparent pas comme nous pour le retour de Christ, ils le voient comme quelque chose de malin. Ils vont se lamenter. Et puis, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est ça que nous attendons. Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc, les saints seront rassemblés au retour de Jésus-Christ. N'est-ce pas magnifique, ça? N'est-ce pas quelque chose qui vaut la préparation, qui vaut la patience pour ce jour-là? Donc, il a mentionné dans cette parabole que les choses seront évidentes. Pour résumer cette parabole du figuier, c'est que les signes, les miracles avant le retour de Jésus-Christ seront comme le changement de couleur des feuilles qui poussent quand l'été est proche. Il a dit au verset 33, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » On a déjà vu à la porte. C'est demain, c'est tout près. On doit vivre comme si c'est demain. On doit être prêt comme si ça arrivera demain. Donc, nous avons beaucoup de choses comme, si vous voulez, des avertissements, mais ce sont des avertissements pour que nous soyons prêts, pour que nous prenions l'action, pour qu'on intègre la parole de Dieu en nous et pour qu'on commence, comme a dit l'apôtre Paul, à vivre, lutter le bon combat, à garder la foi et à courir jusqu'au bout, à ne pas lâcher jusqu'au bout. Considérant Tite chapitre 2, encore de l'encouragement de l'apôtre Paul, Tite chapitre 2 et le verset 13, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà encore une triade de choses qui nous aident à se souvenir de notre préparation. Donc, on avait déjà un combat, on avait déjà la course et la foi. Maintenant, on a une autre triade, la sagesse, la justice et la piété. Ce sont des choses pratiques à garder en focus, à cibler comme développement spirituel, comme préparation spirituelle pour les jours à venir. Verset 13, en attendant, qu'est-ce que nous attendons? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. J'en connais déjà d'entre vous qui sont zélés pour des bonnes œuvres, et c'est très encourageant. C'est très encourageant quand on se met ensemble et quand on est zélé pour les bonnes œuvres, pour l'œuvre de l'Église, pour la prédication de l'Évangile, pour la préparation de ceux que Dieu est en train d'appeler aujourd'hui. C'est encourageant d'avoir le zèle d'entre nous. C'est encourageant. Donc, on se prépare. Ça prend du temps. Nous devons quand même surmonter, vaincre la nature en nous. Nous devons des fois vaincre la société. Et nous devons, avec l'aide de Dieu, vaincre même Satan et la puissance derrière ce monde. C'est quand même un esprit qui ne veut pas qu'on soit encouragé, qui voudrait nous décourager, nous dire que tout ça c'est un mensonge, que vous attendez inutilement le retour de Christ. C'est ça l'adversaire. Il essaie de nous convaincre de sa séduction, de ses mensonges. Mais 1 Jean nous rappelle quelque chose ici. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean, c'est très encourageant. 1 Jean 2, verset, on va commencer avec le verset 28. 1 Jean, chapitre 2, et le verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Donc nous ayons de l'assurance. Il y a une confiance, une assurance en nous si nous développons cette habitude à s'approcher de Dieu pour qu'il nous prépare pour son deuxième avènement. Nous sommes avertis. Nous devons vaincre le monde. Nous devons préparer nos cœurs. Et nous devons vivre tous ensemble en unité de paix, de l'esprit. Il nous donne quand même les uns les autres pour qu'on mette en pratique ces choses. Je l'ai dit peut-être 1000 fois, mais si on vivait tout seul, est-ce qu'on aurait la possibilité vraiment de développer ces qualités chrétiennes, ces choses nécessaires, essentielles, à les mettre en pratique? Je pense que nous avons tous vécu une sorte d'isolation pendant la pandémie. Nous avons tous vécu une sorte d'isolation qui nous a fait que nous sommes de plus en plus éloignés pendant cette période. Et depuis le début de l'année, je peux dire que nous avons de la réjouissance d'être de nouveau ensemble, n'est-ce pas? De pouvoir s'assembler de nouveau. Ça nous apporte de la joie, mais ça apporte aussi des défis aussi. L'idée de rester ensemble en unité, c'est quelque chose qui doit se passer, qui doit être travaillé. C'est un bon combat de pouvoir faire ça. C'est une bonne chose de travailler là-dessus. Mais quand on est tout isolé, droite à gauche, et on n'a qu'à consulter l'Internet depuis chez nous, c'est pas la même chose que mettre en pratique ces choses quand on est ensemble. C'est pour ça que c'est aussi une bonne chose qu'on ait la possibilité de se voir pendant l'assemblée sabbatique et en plus de passer du temps ensemble après l'assemblée et de discuter et de partager nos vies les uns avec les autres et même en semaine de s'entraider, d'être là, d'être tout près les uns avec les autres pour s'entraider dans ce temps, parce qu'on va tous passer par des problèmes, hein, par des maladies, par des accidents, par des souffrances. C'est sûr que on les a vues, les souffrances, mais c'est tellement mieux quand on est là les uns pour les autres. Et donc, ce n'est pas juste une préparation individuelle. Je me concentre sur moi, et si moi je suis OK, c'est tout. Non, c'est comme vous le savez, et comme vous le mettez déjà en pratique, c'est encourageant d'avoir cette zèle de s'entraider les uns les autres. Et c'est ça qui fait briller cette lumière ici, c'est que nous sommes là les uns pour les autres, tout comme Christ est là pour nous. Donc, nous anticipons un monde meilleur. Nous nous préparons pour un monde meilleur. Est-ce que c'est clair pour nous ce que nous attendons? Alors, la fête des tabernacles nous permet chaque année de vraiment avoir une belle image en tête de toutes les choses qui doivent changer, toutes les choses qui seront tellement différentes après le retour de Jésus-Christ. Mais pour le moment, pour que cette chose arrive, pour que ce monde soit possible, nous devons nous préparer pour le deuxième avènement de Jésus-Christ. Pour terminer, considérons 1 Pierre chapitre 1, peut-être deux passages avant de terminer. 1 Pierre chapitre 1, ce n'est pas juste Paul qui attendait ce jour. Tout le monde était prévenu. Tout le monde travaillait pour arriver à ce jour de salut, pour les prémices, en sachant que Dieu prépare les prémices, mais aussi il prépare le monde aussi pour la deuxième résurrection. 1 Pierre 1 et à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons dès maintenant accès à l'Esprit qui nous donne vie éternellement. Nous avons accès à cet Esprit. Si nous nous faisons baptiser, cet Esprit est en nous. Dieu nous le donne comme un don, une préparation pour l'accomplissement de ce changement qui commence de l'intérieur, qui va jusqu'à l'extérieur. Et puis, verset 4, « Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. » À vous qui, par la puissance de Dieu, pas nous-mêmes, pas notre propre puissance, mais par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Je trouve ça très encourageant que Pierre nous exhorte d'être prêt à être révélé. Aujourd'hui, au niveau du monde entier, l'Église de Dieu n'a pas vraiment une vision et n'est pas vraiment vue par le monde entier. C'est des choses qui se passent en coulisses, dans un sens. Ce n'est pas notre jour d'être révélé comme ça va se faire au retour de Christ. Mais certainement, quand nous allons recevoir la couronne de justice, la couronne de vie, quand nous allons recevoir cette gloire de notre frère aîné, ça va tout changer. Ça sera révélé dans les derniers temps. Et ça sera révélé dans la gloire. Donc nous sommes exhortés de se préparer, d'anticiper ces choses, même si la société autour de nous nous dit le contraire. Nous pouvons tous prier chaque jour que ton règne vienne. C'est une habitude à prendre. Mais si nous prions que ton règne vienne, prions également que tu me prépares pour ce jour, quand ton règne sera installé ici-bas. Nous devrions penser comme cette vie sert de préparation pour quelque chose de merveilleux à venir. Dieu l'a déjà expliqué par ses prophètes, par les disciples de Jésus-Christ. À nous de mettre ces choses en pratique, de lutter le bon combat, de continuer jusqu'au bout avec la course et de tenir ferme, de garder la foi jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'au jour que nous anticipons avec tout notre cœur. Donc, j'ai commencé aujourd'hui avec une question. Qu'attendons-nous? Dans un sens, nous attendons la fin de l'ère présente. Nous attendons le début d'un nouvel ère. Nous attendons l'arrivée de quelque chose qui n'est jamais passé dans le monde entier. Le royaume de Dieu, le roi des rois, qui va poser ses deux pieds sur le mont des Oliviers et le mont fondra en deux, comme Zacharie nous a prévenu. Est-ce que la vision est claire? Est-ce que nous nous préparons pour ce jour? Alors, en préparation pour la fête des trompettes, nous avons la possibilité de méditer ces choses et que la fête des trompettes soit encore plus significative, que ça soit une fête de plein de sens pour chacun d'entre nous. Et cette préparation en fait partie.